Shavua Tov. Alors, vu qu'on approche de Hanouka et qu'on, bon, d'après ce que vous avez dit, donc le mieux c'est de parler un peu sur aussi sur le chinour, sur l'éducation, sur un peu pas seulement l'éducation, mais sur nous-mêmes vis-à-vis de la société. Et je pense que c'est surtout par rapport au chinour, parce que c'est surtout ça qui l'éducation qui fait que nous allons réagir. C'est-à-dire que nos réactions ne viennent que par rapport à nos enfants. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, alors il va se permettre des choses que quand il a un enfant, évidemment, il va commencer à réfléchir, et c'est tout à fait naturel de dire est-ce que je peux faire ça ou pas ça, parce que est-ce que ça va influencer l'enfant ou pas. Avant de commencer le sujet, j'aimerais quand même faire une synthèse d'un peu ce qui s'est passé pendant Hanouka. Parce qu'en fait, tout est parti de cette Ashkafala. Vous savez que il y a le roi Talmaï. En fait, il y a ce qu'on appelle l'époque des Talmaï. Il y a Talmaï 1, Talmaï 2, Talmaï 3, Talmaï 4, jusqu'à 5. Le roi Talmaï, le premier, il a voulu un peu, on va dire comme ça, dans un certain sens, c'est un grec, hein, évidemment, conquérir un peu le Yerushalayim, etc. Il a vu qu'il n'avait aucune capacité de rentrer dans le Beth Amikdash et de pouvoir influencer les Juifs de l'époque. Il a usé de ruse, et il a vu que les non-juifs pouvaient offrir des offrandes dans le temple. Donc il a décidé de lui offrir des offrandes avec les soldats, etc. Ils vont venir, chacun vouloir. Et en fait, à l'intérieur, c'est ce qui est passé. Lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur du Beth Amikdash, donc là, ils ont influencé, ils ont, comme évidemment les soldats se sont pris aux Juifs, et donc là, ils avaient une main sur les Juifs. Et c'est à partir de ce moment-là que, si vous voulez, le mouvement de l'hellénisation a commencé. Talmaï, ce premier roi, a essayé donc de faire de telle sorte que les Juifs arrêtent d'étudier, arrêtent de faire le Shabbat, etc. Tout ce qu'on connaît au niveau de... Il est mort. Oui, vas-y. Il est mort et c'est son fils qui avait seulement 25 ans, 24 ans, qui a pris le pouvoir. Et lui, il n'était plus, on va dire comme ça, gentil, il n'était plus... Donc il a laissé les Juifs faire ce qu'ils devaient faire. Par contre, il a décidé de documenter l'hellénisation, c'est-à-dire les théâtres, les cinémas, enfin, c'est vrai, les cinémas, tous les théâtres, etc., les trucs de football, tout ce que le sport, la beauté du grec, etc., tous les arts. Et évidemment, lentement, les Juifs ont commencé à s'intéresser. Et puis c'est allé assez rapidement. Il est parti. L'autre roi, qui est le fils dont est venu, lui, il était plus intransigeant. Donc, il a encore une fois interdit. Mais déjà, le mouvement de l'hellénisation est déjà rentré. Et le problème, c'est que beaucoup de Juifs ont commencé à partir, connaître, à vouloir s'incruster et s'investir dans la philosophie grecque. Évidemment, perdre la toute notion de judaïcité. Dans le Pirkei Avot, on voit, et ça commence à partir des premiers Tanaïm de Pirkei Avot. Et Antigonus Ishsorou, comme ça, c'est les premiers Tanaïm qui a dit, alors là, Antigonus, il avait dit, « Ah, tiwa kavadim, ah, meshamshet et arav, ne soyez pas comme des serviteurs. » Bon, c'est les premiers Pirkei Avot, les premiers traités des pères. On voit Antigonus. Antigonus, il a eu deux élèves, Baitus et un autre. Ces deux élèves-là, qui étaient, enfin, il y avait plusieurs élèves, mais entre ces deux élèves-là, sont sortis de chemin, se sont hellénisés, et ils ont lutté contre le peuple d'Israël. C'est devenu un peu, on va dire comme ça, le judaïsme libéral ou conservatif, comme il y a aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, enfin, on va dire comme ça, comme la philosophie, c'est toujours par des preuves, il y a des preuves, on va Alors ils ont dit, nous on n'a aucune preuve dans la Torah, à part la Torah écrite, la Torah orale, c'est que des enseignements, mais on n'a aucune preuve de ce qui est dit et pas. Donc ils ont renoncé, ils ont dit, il n'y a pas de Torah orale, il n'y a que la Torah écrite. Et ça a commencé comme ça, ce judaïsme-là, qui ont lutté contre le véritable judaïsme et qui ont fait des gros problèmes dans le peuple, puisque dans Rosh Hashanah, c'est rapporté aussi que lorsqu'ils devaient faire l'éphémérie du mois, et ben ils devaient, les Juifs, user de ruse. Pourquoi? Parce que les Baïtussim, c'est-à-dire après, il y avait, après, ils se sont multipliés, etc. Ils faisaient exprès. Si vous voulez, lorsqu'on devait savoir à quel moment était la lune, il y a des shluchim, des messagers qui partaient et ils indiquaient avec une torche, etc., comme c'est rapporté, comme quoi, voilà, maintenant ça commence la lune, donc jusqu'au Beth Amikdash, il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de truc, donc à ce moment-là, au Beth Amikdash, on voyait la truc, ça commence la lune, donc ils déclaraient, voilà, dans le lendemain, demain, ça va être Rosh Chodesh, etc. Qu'est-ce qu'ils faisaient, Baïtoussim? Ils allumaient aussi la torche un jour avant, etc. Donc ils induisaient en erreur. Et sans arrêt, c'était comme ça, induire en erreur pour montrer que la Torah orale, ça vaut rien. Donc les Juifs, ils devaient user de là. Il y avait même des bagarres. Il y avait, la Gemara rapporte qu'il y avait des luttes. Des fois, ils partaient avec des bâtons, les Juifs, pour aller, les messagers, pour aller dire, parce que s'ils rentraient, ils frappaient. Bon, en tous les cas, ça a commencé comme ça. Et si vous voulez, comment on appelle ça, la fête de Hanouka, c'est dans la période la plus sombre de l'histoire, c'est la période la plus sombre de l'année, puisque c'est le moment où justement le rocher, l'obscurité est plus intense. Et pourquoi la plus sombre? Parce que lorsque l'on vient en guerre contre les Juifs en disant tu vas pas faire comme ça, il y a eu des pogroms, ben c'est horrible, mais il n'y a que le corps qui s'en va. La Neshama, elle reste toujours. Et plus que ça, la Gemara et le Zohar, bon, je parle, ils disent que ces personnes, on a parlé d'Olam Haba, ils ont directement le monde d'Olam Haba. Directement. Quelqu'un qui meurt de la main d'un non-juif, il a directement le Gan Eden et l'Olam Haba. Toutes ces fautes sont pardonnées, etc. Bon, il y a tout un écrit là-dessus. Le problème, c'est que lorsque la mort n'est pas physique, mais la mort est spirituel, comme ça a été avec le cas des Yévanim, des Grecs, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité. Ils sont perdus. Dans ce monde-ci, il n'y a plus de Gan Eden, il n'y a plus de Olam Haba. Et donc, ça a été l'exil le plus difficile. Et justement, lorsque Napoléon est venu au pouvoir, et qu'il a décrété comme quoi les Juifs, maintenant, ils peuvent égaliser, ils sont comme les citoyens, etc. Certains Juifs en Russie disaient c'est Machia, parce qu'ils disaient ça y est, maintenant on peut être tranquille. D'autres disaient non, c'est l'inverse. C'est ça. C'est la destruction. C'est fini. Pourquoi? Parce que les Juifs, maintenant, ils vont se sentir rien. Et ils vont, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'assimiler. Tout notre problème à nous, c'est que lorsqu'on est sorti des ghettos, je suis désolé de dire, en Afrique du Nord du Mela, quand on est sorti du ghetto du Mela, c'était la fin du Israël. C'était l'assimilation. Dès que le Juif a décidé de dire, je vais à la rencontre, je vais à l'extérieur, oui, mais il faudrait quand même faire partie de. Qui nous a dit de faire partie d'eux? On a un respect vis-à-vis du pays dans lequel on vit. On a un respect vis-à-vis des lois. Mais on n'a jamais dit qu'à cause de ça, je vais vivre avec eux. La preuve est, c'est que lorsque le peuple juif, le peuple hébreu, est descendu en Égypte, Yaakov a demandé à Yehuda, tu vas demander, parce que c'était la famine et c'était le début de l'exil, qu'on descende, mais qu'on ait une terre qui soit à l'extérieur de l'Égypte. C'est Eretz Goshen. C'était le premier ghetto. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon, il a compris par sa grandeur intellectuelle, entre guillemets, que la possibilité d'avoir les Juifs, c'était pas faire la guerre parce qu'ils allaient nous tuer. Ils ont un Dieu, etc. Ils sont plus forts. C'était par la ruse aussi. Et comme ça, il dit le Midrash, comment faire? Eh ben, c'est les appâter par le gain. En lui disant, vous mangez, vous, les vous êtes dans les chivotes, qu'est-ce que vous mangez, des spaghettis, des trucs comme ça, vous voulez pas un bon saumon, un bon caviar, etc. Bon, pourquoi pas. Alors, si vous voulez, vous travaillez un petit peu, juste une demi-heure, une heure, je vous donne un salaire, ça vous permet d'avoir plus. Bon, pourquoi pas? Certains ont accepté. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, évidemment, puisqu'ils ont perdu une heure le matin, ils ont étudié une heure la nuit. Pharaon, il n'a pas désespéré. Il voulait qu'ils arrêtent d'étudier. Il a commencé à dire, maintenant, si vous étudiez 2 heures, je vous donne plus, etc. Et c'est comme ça que lentement, les Juifs ont lâché le matin l'étude, etc., etc. Et ils sont partis dans le monde du travail, et effectivement, sauf un groupe, Chevet Lévi, la tribu des Lévi. La tribu des Lévi, je vous l'ai dit, nous, on est très bien avec nos spaghettis, tant qu'on est dans les quatre coins du mur, on continue. Et ce sont les seuls qui ont été sauvés de l'exil, de Paro. Les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont rajouté des heures la nuit. Mais au bout d'un moment, Paro a dit stop. Maintenant qu'ils sont sous ma main, parce que je les paye, maintenant ils ont un gain, maintenant c'est un peu des pots de vin, maintenant rien. Donc maintenant j'ai un pouvoir dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Il a commencé à être beaucoup plus dur. Il y a des impôts. Vous savez que pour travailler, maintenant il faut payer des impôts, des machins. Donc il faut travailler un peu plus. Et on est rentré dans ce système économique qui fait que les Juifs finalement ont lâché la Torah. Et ça a été enfin, l'assimilation à l'époque, c'était la perte. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Hachem l'a dit, si on continue, il ne reste plus qu'un degré, ils sont arrivés au 49e, si on arrive au 50e degré d'impureté, c'est fini, le peuple d'Israël disparaît. Enfin, les Hébreux disparaissent, il n'y a plus le peuple d'Israël. Nous, on est arrivé au 50e degré d'impureté. En pression, on devrait disparaître. Mais le Ora Chaim, il nous dit que, étant donné qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas la Torah, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, on a la Torah, elle nous sauve de ce 50e. Mais celui qui n'a pas la Torah, c'est même pas la peine, c'est fini. Aujourd'hui, c'est à notre époque, depuis des centaines, après qu'on ait eu la Torah, lentement, si vous voulez, on arrive à une impureté de totale, ce qui a la veille de messianique, l'avènement messianique qui fait que le peuple d'Israël va arriver à une. Et comme dit le Rahim, au 50e degré d'impureté. Et le 50e degré, en principe, le peuple d'Israël, enfin, un peuple, il ne peut plus, c'est fini. Le 50e, c'est le niveau, le summum de l'impureté. Oui, parce qu'on a la Torah. La seule chose qui nous tient encore, c'est parce qu'il y a la Torah. On fait des shurim, etc. Imaginez qu'on n'a pas de Torah. C'est seulement une transmission. Ah, il paraît qu'il a dit que c'est innocent. Je m'en fiche. Je n'ai aucun ordre. Ils n'avaient pas d'obligation. Le jour où ils ont eu la Torah, ils ont une obligation de mettre les tefillin, faire ceci, faire cela. Chaque chose, je veux dire, 613 mitzvot, ou en tout cas une vingtaine de mitzvot tous les jours, on est obligé. Ce qui nous a permis de nous conserver durant toutes ces années, ces siècles, ces millénaires, jusqu'à aujourd'hui, malgré les pogroms, malgré tout ce qu'il y a eu, on est resté le peuple juif.
Et alors, comment on a passé les 5 ans?
Hein?
On a dépassé les 5 ans,
Qu'on est, on est arrivé au 59e, au 50e degré d'impureté. D'impureté, pourquoi? C'est quoi cette notion d'impureté? L'impureté, c'est quoi? C'est tout ce que la Gemara, enfin la Torah orale, ou en tout cas la Torah écrite, hein, et la Torah elle décrit, à savoir tout ce qui est au niveau du meurtre, de toutes les choses qui veulent, les mœurs, etc., tout. Faut bien savoir, c'est que chaque époque, il avait son truc. Il y a l'époque où il y avait des meurtres, mais il n'y avait pas de problème de mœurs. Il y avait, je veux dire, les femmes, c'était les hommes, etc. Aujourd'hui, nous aurions dit à l'avènement Mashiach, on arrivera à tout en même temps. Pourquoi? Parce que le Satan dira, c'est fini. Le peuple d'Israël n'a plus la possibilité maintenant. Je veux pas qu'il ait le Mashiach, donc je vais tout lui renvoyer en une seule période. Tout ce qu'on a eu, chaque période, un petit truc. La dernière période, c'est-à-dire en principe nous, on a tout.
Et pourtant, malgré.
Mais ça. Parce qu'on a la Torah. D'accord? Ceux qui n'ont pas la Torah, ils sont perdus. Et c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois, ce qu'ont décrit certains rabbinim, c'est comparé à la fin des temps à comme une corde qui va aller de plus en plus vite. Si vous ne tenez pas la corde, c'est fini, vous partez. Et plus vous êtes au centre, c'est-à-dire au centre là où il y a la force, alors vous ne partez pas. Plus vous êtes loin du centre, plus vous partez, parce que c'est l'effet centrifuge. Donc, ça c'est... Donc, plus on est en attache à la Torah, plus... Maintenant, d'où on voit tout ça? C'est écrit à propos de... On est dans un parasha, à propos de Rivka. Rivka, elle a deux enfants. C'est écrit « Vitrosesu Abanim ». Les enfants, dans le ventre de sa mère, ils se bagarrent, etc. Alors, il n'y a pas mal eu de commentaires sur ça. L'un des commentaires qui est intéressant, c'est Rabbi Yoham. Rabbi Yoham, il dit comme ça, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, effectivement, la maman, quand elle passait devant ce qu'on appelle Bate Avodah Zara, une maison qui faisait l'idolâtrie, tout d'un coup, il y avait un des enfants, il voulait y aller. Lorsqu'il passait devant une maison de Beth Amidash, apparemment, il y avait un autre couille. Donc, il a vu qu'il y a quelque chose qui est anormal. Là-bas, c'est raconté qu'en quoi Rivka est allée voir la yeshiva de Chameh Ever pour demander ce qui se passe. Il a dit, t'inquiète pas, tu as des jumeaux. Ce qui n'est pas courant, tu as des jumeaux. Bon, malgré tout, elle était assurée dans le sens physique, mais elle n'était pas assurée dans le sens des enfants. Et Rabbi Yoham, il dit comme ça, quelque chose d'extraordinaire, il dit, on apprend ici un secret, c'est quoi? C'est que, et c'est le sujet, c'est que malgré Rivka, qu'est-ce qu'elle avait peur? Mais il y a un rachat dans mon ventre. Dès que je passe devant une maison d'Avodah Zarah, désolé, Madame Rivka, la rabbinite Rivka, il y a Rav Yitzhak, c'est les grands de la génération. Il n'y a pas mieux comme exemple que de parents au niveau de l'éducation. Qu'est-ce que tu as à avoir peur? Et Rabbi Yoham, il dit que malgré tout, ça ne suffit pas. Quand il y a une influence et que ça a touché un enfant, il peut avoir le meilleur des éducations, l'enfant il peut être perdu. Et on le voit ici. Pourquoi elle avait peur? Qu'est-ce qu'il y a? On aurait pu dire, mais t'inquiète pas, attends, vous êtes l'exemple du monde. Vous avez donné un super chinour, une super éducation, donc il n'y aura pas de problème. Malgré tout, elle dit non, j'ai peur pour mon fils, l'un d'eux. Et toute sa vie, elle va lutter pour Yaakov. Mais je ne comprends pas. La preuve, c'est que Esav, il a continué le même chemin. Mais il voyait Yitzhak.
C'est moi la complexité de Yaakov.
On le voit après quand ils grandissent. Déjà grandi, quand ils sont petits, on le voit. Un enfant, on le voit très, très vite. Hein. Quand il est petit, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut, comment il agit, etc. Et nous, les parents, on n'est pas à subir. On est là à essayer de contrôler, à essayer de faire de telle sorte que l'enfant il puisse aller dans le meilleur des chemins. Mais souvent, les enfants, ils se sont tous attirés vers des choses qui ne sont pas.
C'est sûr que des fois, un enfant, il est petit. On dit ça, vraiment. Se comporte comme un rabat.
Oui,
d'un coup, il change.
Alors, on va voir ça justement.
Vous voulez dire que c'est l'influence de sa maman qui a fait que Esav soit devenu.
Non, il n'y a aucune influence. Au contraire, Rivka, qui était de sa déquête, elle ne pouvait avoir qu'une influence bénéfique sur les enfants.
Non, mais le fait qu'elle ait pensé qu'elle a senti que ce fils-là.
Non, imaginez, d'accord? D'accord, il y a deux enfants, elle comprend maintenant physiquement, je comprends les douleurs. Mais de l'autre côté, ça continue que quand elle passait devant une maison d'Avodah Zarah, il y a un qui veut le sortir. Et devant une Beit HaMidrash, il y a un qui veut sortir, enfin qui veut sortir. Alors, elle dit, c'est pas possible. Ça veut dire que déjà inné, il y a une tendance. Oui, inné, il y a déjà des tendances. Et comme ça, il dit Rabbi Yoham, c'est difficile à dire. Il dit, mais même l'éducation ne servira pas. Et de là, il va extrapoler. Et il va dire comme ça. Il va dire, et c'est le but du sujet qu'on va essayer vite de développer, une demi-heure, que quoi? Ben ouais, mais en grand, allez, sûr. que la moindre influence négative peut changer l'enfant du tout au tout. Et vous aurez beau après essayer de réparer des tzadikim d'un parent, ça ne marchera pas. C'est comme ça. C'est-à-dire? Il faut la garder. En fait, si vous voulez, le monde est un monde matériel. D'accord? Donc tout est fait pour tirer profit de ce monde. Et le fait de dire de tirer profit de ce monde, c'est plus dans le sens négatif que positif. Rabbi, on parlait justement en Shabbat, Rabbi Yehuda HaNasi, il était très riche, et il est parti de ce monde-là. La Gemara a dit quand même qu'il a été, on lui a dit, mais pourquoi même un pot de moutarde, tu n'as pas profité? C'est-à-dire, sous-entendu, pourquoi tu n'as pas profité? J'ai donné ce monde pour en tirer profit. Alors, je profite ou je ne profite pas? Non, il y a deux sortes de profits. Soit il y a un profit pour voir Rabou Maaseh Hashem, comme c'est beau le monde qu'a donné Akadosh Baruch Hu, et donc à travers ça, je vais grandir, moi, dans la Torah, pour la Avodat Hashem. Et chaque chose que je fais, alors, je vais aller au jardin, tu annules la Torah au lieu d'aller étudier. Non, quand je vais aller au jardin, je vais respirer, je vais accumuler de la force pour pouvoir étudier encore mieux. Je vais aller me balader, je vais faire du sport. Mais au lieu, va étudier? Non, parce que le sport me permettra de. Chaque chose que je vais faire les courses. Oh, c'est dommage, le temps et tout ça, dis à ta femme. Non, ça fait partie de la misa. Chaque chose, on le voit en tant que bénéfique dans la misa, soit en tant que profit simplement du monde. J'ai envie de manger, j'ai envie d'aller au restaurant parce que j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'aller au jardin parce que j'ai envie de kiffer pour moi et rien que moi. Ça ne me donne rien dans ma Avodat Hashem, c'est juste pour moi. J'ai envie d'aller à la mer, j'ai envie d'aller à l'hôtel, j'ai envie d'aller, etc. J'ai envie, que pour moi ou ma femme, etc. Mes enfants, c'est le profit égoïste du monde, ça non, ça c'est négatif. Le profit positif, c'est de dire qu'Hashem, il m'a donné ça, pourquoi? C'est quoi le but? Et c'est ça le profit positif. C'est de dire à quel but on m'a donné ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Si on m'a donné l'hôtel, entre guillemets, parce que ma femme, mon mari, peu importe, fatigué, et ça me permet après de pouvoir améliorer, ou pouvoir un shalom bayit, peu importe. Chaque chose, je donne un tachlit, j'ai un but à ce que je suis en train de profiter, qui fait partie de la Avodat Hashem, c'est positif. Mais si je n'ai mis aucun but, c'est juste une simple jouissance du moment. Je profite maintenant, je profite du sport maintenant parce que j'ai envie d'être sportif, je profite maintenant parce que mon corps, parce que c'est voué à l'échec. Il se perd, cette personne se perd. Là-bas, hein, lorsque... et regardez, alors comment on s'en sort de ça? Comment on peut s'en sortir? Comment on peut? Alors il y a la grande discussion entre le Ramban et Rashi. Lorsque Rivka est allée voir Shem Vaever et Shiva, et là-bas, le Ramban, il dit, pourquoi il est allé voir? Pour lui apprendre qu'il faut faire la tfila. Et seule la tfila, la prière, peut sauver une personne qui est déjà tendance négative. Prier. D'après le Ramban, c'est prier. Il y avait une histoire, ici, il le rapporte. Hein?
C'est la mère ou c'est l'enfant qui doit prier?
Ah non, les parents.
Ah, c'est les parents.
Les parents. Justement, il y a une histoire du Baal HaMoudé Or. C'était un grand décisionnaire de l'époque, c'est pas notre époque, c'était il y a des années de ça. Et ils devaient marier leur fille. Il y a quelqu'un qui détestait ce rave-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans toutes les yeshivotes dire que sa fille, elle a des problèmes. Sa fille, elle n'a pas pu rencontrer qui que ce soit. Elle a dû se marier. La seule chose qu'on lui a proposée, c'est un cocher. Alors qu'elle était vouée être avec un tamid chacham, tout ça. Avec un cocher. Le seul qui a accepté. Imaginez le jour de la choupa. La mère, elle dit, c'est à quoi ma fille, elle est destinée? La mère, elle a pleuré le jour de la choupa. Elle a dit, si c'est comme ça, c'est que quelqu'un qu'elle a décidé. Il n'y a pas d'autres façons de voir. Mais Ribono Shalom, Dieu du monde, même si ce mariage doit avoir, que les enfants qui sortent soient des tamidérah, soient des grands. Et c'est ce qui est passé. Elle a eu quatre garçons, et les quatre garçons sont devenus des grands décisionnaires, etc., qu'on étudie jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Et bien là-bas, il dit le Rav, à Moudéor, c'est la tfila qu'a fait sa mère, son père aussi, parce que dans son livre d'ailleurs, il dit, son père, il rapporte comme ça, il dit, son livre s'écrit, je sais plus comment, au début de chaque livre qu'il écrivait, il dit la louvate. La louvate. À louve. Non, le livre, chaque fois, il disait à louve. À louve, c'est-à-dire le triste. La tristesse qu'il avait, le père, de voir sa fille. Quoi qu'il en soit, ils ont prouvé, comme elle a montré, enfin lui, il a montré par rapport à la tefila de sa femme, que c'est ça qui a permis que la quantité ne soit pas, malheureusement, ne soit pas perdue. Ça, c'est le Ramban. Rashi, lui, dit autre chose. Donc, ça, c'est le Ramban. Il dit, c'est la tefila, la seule chose qui peut nous sauver. Rashi, lui, il dit autre chose, et c'est important de le savoir. Et c'est les deux choses qui peuvent nous sauver de tout ça. Le chinour, l'éducation, effectivement. Mais c'est les deux choses qui peuvent. C'est la prière. Et ce que dit Rashi, il dit, c'est écrit, l'hydroche est Hachem. Elle est allée au Beth Amidrash demander l'avis de Talmidei Chachamim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais Rashi dit, c'est là qu'on voit. Tant qu'on est proche de Rabbanim et que lorsqu'on veut décider quelque chose, on demande l'avis des Rav. Rav, est-ce que vous pensez que je peux inscrire mon fils à telle chose? Rav, est-ce que vous pensez que ta Selecha Rav, c'est écrit dans Pirkei Avot, fais-toi un Rav. Pourquoi? Parce que les Rabbanim, ils étudient toute la journée, donc ils ont une Ashkafa, une pensée de Torah. Non, une pensée qui est influencée par tout ça. Donc on va demander. Il dit, c'est la seule, comme ça, il dit Rashi, la seule façon pour être sauvé, pour que les enfants soient sauvés. La tefila est d'avoir un Rav chez qui on se réfère, à qui on se réfère et qu'on demande. Le problème, c'est quoi? Et c'est le problème Yevani, des Grecs, on revient. C'est le problème que tout va bien, je n'ai pas besoin de demander. Je pense que c'est comme ci, je pense que c'est comme ça. Et c'est le problème de... La Gemara dit comme ça, c'est dans... Chagiga, il rapporte ici. Chagiga, il dit comme ça. Tani Rabbi aussi, Omer, il dit comme ça. Oi, la haine la briot, chez Root, venot, yodot, ma chérote. Oi, la créature ou l'humanité, chez Root, qu'elle voit, venam, yodot, ma chérote. Et elles ne savent pas ce qu'elles voient. En fait, tout le problème, je ne vais pas raconter tout ce que dit la Gemara, mais c'est, on va dire comme ça, c'est que le Rambam, dans Sidichot Deot, Perek Vav, il nous dit comme ça, « Derer Briato, la façon de l'homme, avec un grand H, chez Adam, Briato, la façon dans laquelle il se comporte l'homme, Lion nimshar bedeotav ou bemaasav afer achar reav vechaverav noek eminag anshem edinato. C'est d'être influencé dans la pensée et dans les actes à travers les amis qu'il côtoie et tous ceux qui sont autour de lui selon le minag, la tradition du pays. Ça veut dire que le Rama Hindu dit une formule biologique. C'est constat biologique, c'est pas une pensée, c'est que l'homme, il est influençable. Vous vous trouvez à Bnei Brak, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez pas sortir avec des boucles d'oreilles, des trucs comme ça. Vous allez sortir juif jusqu'ici, machin, comme ça. Vous allez à Tel Aviv, vous allez sortir, j'ai pas besoin de faire le dessin. Même si vous êtes sadique et tout ça, non, mais moi je vais influencer. Non, ne crois pas que toi tu vas influencer. Tu vas être influencé, et c'est ce qu'il dit le Rambam. L'efechat tsarir Adam, c'est pourquoi il dit le Rambam. L'itraber la tzadikim, s'associer ou s'attacher à des tzadikim, à des rabbanim. V'lishev et tsel hachachamim, et s'assoit près des hachamim. Tamid, tout le temps, c'est pas bon, ça y est, j'ai fait un an de stage, j'ai abdé brak, ça y suffit maintenant. Tamid. Kedesh il mod masem afin qu'ils puissent apprendre leurs actes, vidrachek mina rechaim qui s'éloigne des rechaim, des mécréants, olchim bachosher qui vont dans l'obscurité, kedesh il mod masem pour ne pas qu'ils apprennent et qu'ils apprennent de leurs actes, etc. Donc on voit ici encore une fois la notion d'influence. Pourquoi ? Parce que c'est ce que dit la Gemara. Et il y a le message d'Yacharim, j'ai rapporté, il dit quelque chose d'intéressant, message d'Yacharim, Ramchal. Ceux qui n'ont pas entendu, c'était l'une des figures, c'est lui qui a, on va dire, qui a commencé la notion de Moussa, de la morale dans le peuple juif. Il dit comme ça. Comprends bien cet enseignement. Bon, j'ai pris exprès en français hébreu, comme ça, la tête. Alors, comprends bien cet enseignement et merveilleux pour celui qui l'approfondit. En effet, l'obscurité de la nuit peut engendrer pour l'œil humain deux sortes d'erreurs. N'oubliez pas que Yavan, la Grèce, enfin l'Empire grec, est comparé à l'obscurité. Il a obscurci chaque empire. Il y a eu quatre empires, le cinquième, c'est le Rome. La Grèce, c'est le Olam Achosha, c'est l'empire de l'obscurité. Il a obscurci les yeux, il n'a pas tué, il a tué spirituellement. Et regardez bien ce qu'il dit le Ramchal. En effet, l'obscurité de la nuit peut engendrer pour l'œil humain deux sortes d'erreurs. Elle peut soit l'aveugler complètement et l'empêcher de voir, évidemment, quand vous n'êtes pas aveuglé, vous ne voyez plus rien, alors vous avancez, paf, sur un mur, clac. Soit l'induire en erreur. Et lui faire prendre une colonne pour un homme ou un homme pour une colonne. Ainsi, la matière et le matérialisme agissent comme les ténèbres de la nuit pour l'intellect. Je répète. Ainsi, la matière et le matérialisme, tout ce qui nous entoure, et lorsqu'on dit « moi j'ai envie de faire des vacances, et tout ça », on rentre dans cette matière, donc c'est rochère, c'est l'obscurité. Qu'est-ce qui se passe ? Elle agit contre les ténèbres de la nuit pour l'intellect. C'est-à-dire, ça vous obscurcit, vous ne devenez plus objectif dans vos idées. Cette obscurité engendre chez l'homme deux sortes d'erreurs. Elle l'empêche de voir les pièges répandus dans ce monde-ci, de sorte que les marches soient, de sorte que les sceaux, pardon, marchent avec indifférence, tombent et périssent avant de ressentir une quelconque crainte. Bon, il rapporte des tsukim, c'est clair, vous ne voyez rien, donc vous risquez de tomber. Quelqu'un qui ne veut pas apprendre, qui ne veut pas, eh bien, il est sceau, c'est comme un sceau, donc il est dans l'obscurité. La seconde erreur, je passe outre les psoukines. La seconde erreur est plus grave que la première. Elle trompe leur vision, et ça c'est le sujet du cours. Elle trompe la vision du monde jusqu'à leur faire voir le mal comme s'il était réellement le bien, et le bien comme s'il était le mal. Ils s'endurcissent en multipliant leurs mauvaises actions. Non seulement la vraie conception leur échappe pour voir le mal, mais pire encore, ils essaient de justifier leur opinion perverse et leur idée erronée. C'est proche. Lorsque l'on. Alors, la question est qu'est-ce que je fais, ma Rav, mes enfants, je les mets à l'université ou pas? Est-ce que je les envoie à l'université? C'est un exemple de question. La question a été posée. La question est posée et. Alors, il y a un Mishnah Bura. Il y a un Mishnah Bura, c'est intéressant. Dans la Lacha, je ne vais même pas aller dans la Shkafa, c'est dans Mishnah Bura, il va vous apporter une façon de voir. Le Mishnah Bura, c'est-à-dire la Lacha. Là, on est dans Shabbat, d'accord ? Alors, Shabbat, il dit comme ça. Chafetze Shamaim, Moutal et Daberben. Pendant Shabbat, c'est ce qu'on a de parler n'importe quoi. Le foot, ce soir, c'est le foot. Bon. Alors. Est-ce qu'on a le droit de parler pendant Shabbat de foot, de voiture, de, je sais pas, de business, etc. Bon, tout le monde connaît. Rafa, c'est chez Mouta. Par contre, est-ce qu'on a le droit de parler de, est-ce que tu as acheté une maison en Eretz Israël? Est-ce que tu as fait le chidour à ton fils, ou etc. Il y a un chidour, etc. Est-ce qu'on a le droit de parler de choses comme ça? Oui. Pourquoi? Parce que tout ce qui concerne la Kadosh Baruch Hu, les mitzvot, etc., évidemment, j'ai droit de parler. Moi, je prends 50 euros la montée. Bon, attends, un sou, on ne parle pas de, c'est pas de business. Non, mais c'est Chafse Shamaim. C'est pour la mitzvah. Ben, je vais sortir mon billet. J'ai dit comme ça pour dire que je prise la cette mitzvah. J'ai envie de faire cette mitzvah et je suis prêt à donner une. Donc, je au contraire. Les daber qui gagnent, chashvonot, chez le mitzvah, etc. Donc, vilifsov, c'est daka, ou par exemple, dis-moi, combien il faut donner comme c'est daka, là, Shabbat à jour. Et dans la semaine, aussi à jour. Non, c'est. Tu as le droit de parler, c'est daka aussi, tu as le droit de parler, mais c'est de l'argent, c'est pas grave, tu as le droit de parler. Ah, donc j'ai le droit de parler. Ouais, tu sais, moi j'ai gagné au travail. Non, d'assaut. Ben, c'est l'argent. Oui, mais ça ne concerne pas. C'est pas un cadeau de l'eau. Ce qui concerne un cadeau de l'eau, les mitzvot, tu as le droit de parler. Véléchader, Tinoc, les arrêts, c'est que de faire un chido pour un enfin, un Tinoc, il dit pour un enfant, un jeune. Les arrêts, ou etc., le fiancé. Vélamdo, c'est faire ou malo. Tout ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Mishnah Berurah, il nous dit comme ça. Je trouve vite fait. Voilà, Dirtiv, Imchashiv, Mishabad, Ragecha, bon, il rapporte un passou, etc. Après, il dit un long truc. Bon, après, il dit, alors où c'est que j'ai vu? Bon, là, il rapporte une partie. Alors, je vais lui dire, c'est pas grave, de toute façon, on n'a pas assez le temps de tout faire. Il rapporte une petite partie. Il dit comme ça, le biolacha. Tenaim, ifligu baze, inyan begmara, de yesh sovrim, de tsarik lamed, livno Torah. Les Tanaïm, les sages de la Gemara, ils ont énormément parlé, justement, dans la Gemara, de quoi? De yesh sovrim, de tsarik lamed, livno Torah, qu'il faudrait enseigner aux enfants la Torah. Vegan yonou manout, et aussi enseigner des métiers. Donc, Kiddushin s'est rapporté. Vatania Rabbi Nochonia, le sage Rabbi Nochonia, Amar Mania, Rani Kolomano Shebola, Vani Melamed de Benye la Torah. Mais moi, Rabbi Nochonia, je ne veux pas qu'il aille à l'université, rien du tout de profane, que la Torah. Pourquoi? Parce que chez Kolomano Shebola, parce que tous les métiers qui existent dans le monde, Om Dotlo Ladam Bet Lioduto, ils se tiennent devant l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa vieillesse. Mamotal berav. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il aura faim? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Par contre, la Torah, même lorsqu'il a faim, même lorsqu'il est fatigué, ben, il pourra continuer à étudier. Travailler, tu peux plus. La retraite, ça y est. On augmente. Hein. Allonger un petit peu. Mais comme la compte, Gamze, Chemeladel, et Beno, Manout, Saril, Kulalma, et Lamdo, Bitrila. Mais même si tu veux enseigner un métier, tu devras commencer à enseigner la Torah. Vegambet, Chose, Bemelarto, et même lorsqu'il est en train de travailler, etc. Torah, Virachamaim, Deimloachi, et ça doit être toujours dans un domaine de Torah. C'est-à-dire que lorsque j'ai travaillé, eh bien, ça ne veut pas dire que maintenant, je m'enlève, j'enlève tout, et je mets mes boucles d'oreilles, je mets tout, je ne suis plus le juif. Non. Même quand je vais travailler, je reste le juif avec, il y a mincha, vite, etc. Il y a les prières, il y a à manger, etc. Là, maintenant, je mange ce que je veux, et dès que je reviens à la maison, je mange kasher. Donc, ça fait partie de tout ça. Donc là, il nous dit, en fait, que, justement, après, il dit, « Omatile minachet amru kol haTorah shein ima malacha sofa emlel » Alors, effectivement, il rapporte que toute Torah dans laquelle il n'y a pas un travail, à la fin, il risque de voler, parce qu'il n'a pas de parnassa, il risque de... Aujourd'hui, ce n'est plus tellement la chose, parce que même dans les kolelim, on étudie, on reçoit un salaire. Peut-être qu'il est petit, mais on reçoit un salaire. La classe, hein. Bon, mais c'est comme ça, on dessine la route. Alors, seulement, la question est... La question a été posée, et elle est toujours posée, puisque moi, on l'a posée. Qui c'est qui va aller travailler? On a des enfants. Alors quoi, je vais envoyer un de mes enfants aller travailler? D'après ça, il faudrait comme ils aillent travailler. Alors, le Marie Diskin, il répond à cette question. Il dit comme ça, hein, il dit simplement, c'est que dans la Torah, c'est écrit « Va'ata » Im shamua tishmu mekoli, si vous écoutez ma Torah, etc., pourquoi je vous donnerai tout ce qu'il faut, vous êtes Am Segula, vous êtes le peuple élu, etc., etc., donc je vous donnerai tout. Il dit le Maharal Diskin, il dit, mais c'est simple, c'est que la Torah veut nous dire simplement, ne vous inquiétez pas, vous faites ce que je vous ai donné, moi je vous donne et je vous apporte à la maison. Ah, mais alors comment avec un? mais il y a d'autres nations, il n'y a pas que vous. Et les nations, elles vous donneront à vous. Les peuples vous donneront à vous. Très bon pour nous. Mais comme nous, mais parce que c'est écrit après, mais im lo tishma, mais si vous écoutez pas, etc., alors les peuples viendront contre vous. On est dans le deuxième cas. Comme on ne fait pas la volonté d'Hachem, les peuples ils viennent contre nous. Donc c'est un cerf vicieux. Au lieu d'un cerf vertueux, je travaille, on a tous compris, donc maintenant j'attends que les égoïmes, on est là, au contraire. Ouais, tu as vu, on est maltraité, donc il faut que je travaille plus, il faut que je donne le grand médecin, il faut là, 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 et on va à l'inverse de ce que nous dit Chacham. Oui, évidemment, évidemment. Mais à l'époque des rois, à l'époque de Shomamé, un peu de Devinamé, un peu de tout cela. Il y avait des gens qui avaient effectivement, il y avait des petites macolettes, il y avait des les juifs étaient, les juifs, c'est vrai que dans la Gemara, ils travaillaient la terre. Il y avait des petits trucs comme ça. Puisque la Gemara d'Ambrachot, elle dit comme ça, il y avait la grande discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua, et Rabbi Shimon qui dit que au moment où c'est la Shvita, au moment où c'est la Jachère, alors on avait tous étudié. Donc ça veut dire que là, ils étaient en train de travailler. Et Rabbi Shimon a dit non, mais en principe, on devrait que étudier. Il n'y a pas de notion d'aller travailler. C'était une grande discussion, jusqu'à ce qu'à la fin, effectivement, la raison était pour Rabbi Yoshua, comme quoi il fallait qu'il y ait aussi un travail. Évidemment qu'il travaillait. Mais le travail que faisait à l'autre époque, c'est-à-dire à l'époque de nos Chachamim, on le retrouve encore. Mais maintenant, on le retrouve. Vous allez à Bnei Brak. Moi, ça m'arrive, je vous ai raconté ça. Je suis allé au pressing pour apporter des habits, etc. J'avais peur de le déranger. Il était avec sa Gemara. Il était en train d'étudier. Je dis, excusez-moi, Ken. Mets là-bas. Oui, mais... Attends, je tiens, un instant. Il est en train d'étudier. Chaque instant, il était... Bon, après, il a vu qu'il fallait faire. Donc, il faisait, hop, il a fini tout ça. Il se remettait dans son livre. Bon, il a fait. C'est très bien. Ça veut dire que même dans son travail, il était sans arrêt dans le droit. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on va à l'université, on perd 6 ans, 7 ans, je ne sais pas ce qu'on veut faire. Si on veut faire des grandes carrières, n'est-ce pas, vous n'avez pas peur. Donc c'est 6-7 ans. Pendant 6-7 ans, va étudier. Ouais, mais attends, là je ne peux pas, c'est ma première année, c'est le concours. Deuxième année, ouais, mais attends, parce que là c'est quand même difficile. Troisième année, après c'est des stages, après. Moi j'avais posé la question à Rav Kanievski personnellement. Je faisais des études de rôle aussi un peu. J'avais dit, voilà, je peux les finir en 3 ans, je ne fais que ça, mais c'est fini. Ou alors ça prend 6-7 ans. Donc, il m'a dit, Chas de Shalom, Kol Yom, Tilmad. Donc, au lieu de faire 3 ans, j'ai fait 6 ans. Mais finalement, grâce à ça, ça m'a permis de voir que j'étais idiot et que j'ai fait que le Limoud. Voilà. Mais si j'avais fait les 3 ans, mais au début, je n'ai pas compris. Au début, je pensais que. Mais si j'avais fait que 3 ans en disant après, c'est ça ce qu'il dit. Tu crois, toi, voir ce qui est bien à tes yeux, mais c'est mauvais. On a l'impression, chaque fois qu'on voit, on se donne des vrais. C'est pour ça qu'il dit assez les haras, fais-toi un rave. C'est lui qui a tes yeux. Dans chaque chose. Et la première chose, aujourd'hui, qui est le problème, c'est le shalom bayit. Avoir un rave qui nous permet de nous diriger. De demander, est-ce que, regardez mon mari, regardez ma femme, etc. Même si on a honte, même si on a, ouais, mais ça ne se fait pas, il va savoir. Mais il vaut mieux qu'il sache, parce que en principe, un rave, enfin, ça dépend lequel, mais en principe, c'est secret professionnel. Je veux dire, mais moi, je connais des couples, parce qu'ils ont, ils ont un peu honte, etc. Mais c'est allé après jusqu'au divorce. Après, c'est trop tard, maintenant, on va voir, mais ça y est, c'est fini, la brèche, elle est faite. C'est fini. Donc, il faut, dès qu'il y a un petit problème ou souci, moi, je vous dis honnêtement, voilà, moi, honnêtement, je suis sans arrêt, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un truc, je me dis, j'ai pas honte, je vais voir. Le jour où je me suis marié, je suis allé voir le rave pour savoir, est-ce que comme ça, on peut faire, est-ce que comme ça, on peut parler. Des fois, ça m'arrive de l'appeler à 1h du matin. Bon, je ne l'appelle plus maintenant parce qu'il a vieilli, mais... mais... des rabbinim qui est important, mais bon, il me connaît, mais je veux dire, voilà, ça fait partie. Si on veut arriver à ne pas être influencé, il ne faut pas avoir honte, et il ne faut pas, parce que la honte fait que quoi? À Baïchan, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il écrit dans Pirkei Avot? Il n'apprendra rien. Le honteux, il n'apprendra rien. Il ne pourra pas avancer dans la vie. et surtout qu'il verra des choses qu'il pensait vraies alors que c'est faux. Parce que moi, honnêtement, des fois, quand j'étudie, etc., je pense, et quand je vais l'appeler, il me dit exactement le contraire. Je dis, attendez, mais c'est pas possible, parce que ça, et ça, ça. Non, mais si tu fais ça. Ah oui, j'avais pas vu comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est subjectif. Le monde, c'est ce qu'il dit le Rambam, on est influencé. On n'est pas à Bnei Brak. On est en France, on est aux États-Unis, on est partout, dans les même à Bnei Brak, on peut être influencé. Moi, je sais que ce rave-là, il n'envoyait même pas ses enfants dehors, à s'amuser dehors dans le jardin, de peur d'être influencé avec d'autres enfants. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont tous des péotes. C'est tout. Oui, mais on ne sait pas, il y a des enfants qui peuvent être pas bien. Alors, la question est comme ça. Alors, regardez, la question... Le Rav Wasserman lui a posé la question. Le Rav Wasserman, il dit comme ça. Il dit, bon, vous pouvez accepter sa réponse. Moi, j'ai trouvé sa réponse assez pertinente, mais... La Gemara dit, l'Olam, il m'a... Il y a une mitzvah, c'est écrit l'Olam. La Gemara dit, l'Olam, il m'a d'Adam ou Manout. Toujours, un homme, il doit enseigner à son enfant un métier. Donc, apparemment, c'est une mitzvah. Le Rav Wasserman, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, la mila, faire la brit mila, c'est une mitzvah. Si maintenant, la maman, elle a eu des enfants. Le premier, Chazé Shalom, quand elle fait brit mila, il est mort. Le deuxième, Chazé Shalom, il est mort. On a le droit de faire le troisième? Mais c'est une mitzvah. T'as pas le droit. Non. Ah oui, vous allez prendre un risque? Non. C'est interdit. C'est interdit. La halakha, elle vient dire, tu n'as pas le droit de faire les mitzvahs. Mais c'est une mitzvah, c'est une des plus grandes mitzvahs. Tu n'as pas le droit. Comme il y a un qui est mort, même il y en a qui disent que même un seul qui est mort, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau génétique, il y a quelque chose, tu n'as pas le droit. Comment? C'est comme ça dit halakha. Et ça, voilà. Alors ça, on va arriver. Alors, vous posez une question. Et c'est très bien. Parce que c'est selon vos yeux et votre logique, mais la Torah le voit différemment. Et c'est ça la différence. Vous voyez penser que c'est bien, et même vous voyez pour la Torah, c'est bien. Les gens, beaucoup de gens pensent que c'est bien, c'est la Torah qui a dit. Combien moi j'ai des gens qui disent, mais la Torah a dit. J'ai dit, la Torah, elle a dit, mais c'est dans un contexte, mais tu connais pas l'autre facette. Ça, tu peux le dire comme ça, à condition qu'il y a plusieurs conditions, mais si les conditions ne sont pas remplies, tu ne peux pas, c'est exactement l'inverse, tu n'as pas le droit de le faire. Par exemple, Shabbat, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Mais si j'ai un malade, j'ai le droit de même d'allumer le feu. Mais chassé shalom, mais qui c'est qui m'a dit ça? C'est pas ma logique. Non, mais ben, là, c'est la même chose. C'est un être vivant, peut-être qu'il va s'en sortir. Tu n'as pas le droit de prendre un risque, même infini soit-il. Kippour, qui est la fête la plus... Si une femme, elle est enceinte, tout ça, et qu'il y a un risque, elle n'a pas le droit de les... C'est écrit comme ça, ça va plus loin. La Gemara dit comme ça. Une femme, elle a envie de manger du cochon. Elle a une envie. Une femme enceinte. Et c'est qui pour? Chas shalom, t'es malade, qui pour? Un cochon, va dormir, ça te rend bien, je te donne du doliprane. La Gemara dit non. Tu lui chuchoteras dans l'oreille, tu lui dis regarde, c'est pas bien. On n'a pas le droit de manger, etc. Comme si le bébé l'entendait, parce qu'en fait, c'est le bébé. Si elle dit toujours, mais j'ai quand même envie de manger, on lui donnera même kippour du cochon. Mais par quoi? Parce que nous, on voit la vie avant la Torah. C'est horreur, c'est notre vie, la Torah. La Torah, elle n'est pas là pour tuer. Tu vas faire, vas-y, continue jusqu'à le... Ma pitom, c'est ça qui fait la grandeur de la Torah. Et mangez pas, porc, mais je vous dis même qu'il faut.
Moi j'étais enceinte et j'étais sous perfusion toute ma grossesse à l'hôpital. J'ai pas pu faire qu'il faut. J'étais sous perfusion.
Ça c'est différent. Avec oui, ça c'est autre chose. Mais...
C'est autre chose, ça mais je pas. Mais j'avais pas envie de
manger. Non, encore plus, sous perfusion, on mangeait même pas. Quoi. Tout le problème c'est manger, c'est en profiter. Donc imaginez, la femme qui est enceinte est. Et le mari il est là, c'est pas possible. Qu'il faut, c'est misement et du cochon. Tiens. Et pourtant, elle a le droit. Mais pourquoi? Parce que votre logique, votre vision, elle n'est pas celle de la vision de la Torah. Et c'est ça ce que je voulais vous dire. C'est que votre vision, elle est influencée par rapport à la vision de l'ensemble de ce qui se passe autour de vous. Et peu importe quoi, moi j'avais une discussion avec des gens qui ont intellectuellement élevé, etc., sur le problème de d'homme qui devient femme, hein, qui devient mort, enfin, je sais plus, non. Mais attendez, c'est, on évolue et tout ça. Je dis quoi ? Demain, on sera avec des antennes aussi parce qu'on est devant un écran. Et qu'est-ce que ça veut dire ? On évolue. Mais la Torah aussi, elle évolue. Mais elle n'évolue pas dans ce sens-là. Il y a une notion de homme et de femme qui a été créée pour justement pouvoir procréer, pour donner. Mais alors, on peut, qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, peu importe, je ne vais pas entrer dans ce domaine. Mais quoi qu'il en soit, on a une vision, elle est influencée. Si nos chachami nous disent c'est interdit, c'est interdit. Si, si, c'est une halakha.
C'est une loi.
C'est une loi. Bah oui, j'ai pas dit comme ça. Hein? Le Rav Versemann, il le dit pas, mais c'est dans Yoredea. C'est dans Shulchan Aruch Yoredea. C'est dans le livre Yoredea, sur la Mila. Tous les Moalim, ils savent. En principe, s'ils ont étudié comme il faut, vous demandez à un Moal. Tous les Moalim, ils savent qu'avant de faire la Mila, d'abord on demande à l'enfant comment il est, etc. Mais c'est le huitième jour. Mais s'il a la jaunisse, tu ne peux pas. Mais c'est écrit le huitième jour, tu feras. Je m'en fiche, on a plus qu'à toi. Mais tu ne peux pas, il y a un danger, il y a un risque. Eh bien, on fera neuvième, dixième. D'accord, mais le dixième, alors c'est Shabbat. Eh bien, tu ne feras pas Shabbat. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le huitième. Ben, attendez, alors on va le faire onzième. Alors, on ne le fait même pas, hein, le bruit de mille, quoi. J'ai toute la famille qui vient ça, on s'en fiche. On s'en fiche. Là, Torah a dit, Shabbat, tu ne peux pas. Il n'y a que le huitième, tu pourras. C'est-à-dire cette abnégation de voir que ce qu'on dit les Chachamim, ce sont nos yeux. Et lorsque les Pirkei Avot nous dit, tu te feras un rave, c'est-à-dire tu avoir un rave, c'est lui qui est nos yeux. Parce que nous, on a la vision du monde qui est tout autour de nous. On devient subjectif. Le rave, il est parvé, d'accord, il est ni viande ni lait, d'accord, et en plus. En principe, il étudie, donc il a une autre façon de voir les choses, selon la Torah.
Mais comme
ouais. Très bien.
La Torah dit non, vous ne pouvez pas.
Ouais.
Bon, je comprends que ça prime l'esprit de la Torah, j'entends. Mm. Mais quand même, si c'est une maladie qui peut ne pas se reproduire, il y a quand même un avis médical qui compte aussi.
Alors, oui, vous avez raison. C'est-à-dire que, encore une fois, moi je dis. Oui, oui.
Il y a la mère qui a perdu deux enfants, même si le docteur nous a dit Dieu, elle ne va pas avoir le courage de le faire. Oui, mais si la mère nous a dit Dieu,
Regardez, évidemment, vous avez raison. La chose est comme ça. Aujourd'hui, la science a beaucoup évolué et on peut se référer à certaines choses. Seulement, il faut bien savoir, et je le dis encore une fois, c'est que la science a ses limites. Si elle vient à l'encontre de ce que dit le Chachamim, même si on a la plus grande technologie, vous ne pourrez pas aller dépasser ça. C'est difficile, mais ça fait partie justement du fait que notre regard à nous n'est plus objectif. Il est subjectif parce qu'on a évolué, on a grandi dans une atmosphère, dans une ambiance qui fait que, eh ben, on doit avoir des sources comme si, on doit avoir des réponses comme ça, on doit avoir des orachot, des preuves comme ça. Et si j'ai pas de preuves comme ça, alors on a grandi comme ça. Et quand la Torah va nous donner d'autres preuves, une autre façon de penser, elle dit mais moi j'ai pas grandi avec ça, donc je peux pas accepter ça. Et c'est pour ça qu'on nous dit non, c'est pour ça. La notion d'assimilation de Yevanim, c'est exactement ça. C'est de faire grandir. Qu'est-ce qui se passait ? Il disait aux parents, tu vas prendre la corne de bélier, parce que comme ça, ils buvaient avant les bébés. Si ce n'était pas le biberon, c'est la corne de bélier. D'accord ? Et tu écriras dessus, tu n'as pas de Dieu. Tu n'as pas un chélek, tu n'as pas une, comment on appelle ça, chélek ? Non, tu n'as pas, tu ne fais pas partie du Dieu, de ton Dieu. Il n'y a plus Dieu. Quel rapport ? Le Chachamim dit, quel rapport ? Il fait sur le biberon. Mais les enfants, et ça je reviens et je finis avec ça. Les enfants, à la sœur des parents, les enfants ne sont pas critiques. Les enfants, lorsqu'ils voient quelque chose, ils ne font qu'apprendre. Les adultes, eux, ils sont critiques, ils sont capables de discerner c'est bien, c'est pas bien, et de dire, bon, on ne devrait pas le faire. L'enfant, donc maintenant je viens et je finis ça, et je réponds à... C'est que lorsqu'un enfant, il voit que... Alors, je finis avec cette histoire. Donc, le bébé, on lui mettait, qu'est-ce qu'on s'en fiche, le bébé, qu'est-ce qu'il va avoir? Le bébé, tout d'un coup, depuis son jeune enfant, dans son jeune âge, il voit, il n'y a pas Dieu. Même si les parents, c'est des syndiqués, etc., le fait qu'il voit, qu'il soit obligé de voir au bout d'un moment, à 20 ans, il dit, oui, mais vous, vous dites qu'il faut faire Shabbat, tout ça. Mais moi, j'ai toujours vu comme quoi il n'y avait pas Dieu. Maintenant, il va se poser des questions. Mais attends, tu as des parents qui sont syndiqués. Tu as Rivka, Yitzhak. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, reviens à Kfida, ou alors, voir un Rav. Mais des fois, le Rav, c'est trop tard. C'est pour ça que les enfants, souvent, ont cette façon de voir qui est erronée. Et que je vois, on en a parlé une fois, des enfants, on leur laisse un portable, n'est-ce pas? Ça, c'est la fin de la génération. C'est ce genre de portable. Il y a tout dedans. La pire des choses. Meurtre, mœurs, tout en même temps. Et qu'est-ce que vous allez dire? Ah, mais attendez, il y a des mails, on peut faire, il y a des cours de Torah, tout ça. C'est notre vision à nous. Dans ce monde-ci. Oui, bon. Il y a des images qui apparaissent, il y a des machins, et puis je ne sais pas quoi. Bon, peu importe. Je ne vais pas revenir dessus, mais le problème, encore, c'est notre vision à nous. On pense que, et on se donne des excuses qu'on a vues tout à l'heure, des prétextes qu'on croit que c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as demandé au Rav? Ah non, laisse tomber, je ne vais pas demander, il va me dire c'est interdit. Regarde, tout c'est interdit chez lui. Oui, mais si c'est interdit, c'est parce que c'est vraiment interdit. Alors allez voir un Rav, j'ai pas dit d'avoir une ribambelle de Rav. Attends, pour l'argent, je vais voir ce Rav, il est cool. Pour la cache-route, je viens là, tu vois. Pour les maris, alors, clac, là, je vais voir celui-là. Pour les... Je sais pas, j'ai quelle carte de crédit, je vais voir tous les Rav. Non, la pire carte me dit, t'as assez les Rav, un Rav, un seul. Parce que vous avez posé la question, lui, ouais, mais lui, il m'a dit comme ça. Alors qu'est-ce que vous dites, hein? Ouais, bah, alors, on va voir celui-là. Ouais, mais l'autre, il a dit encore autre chose, hein. Un seul. Voilà, un seul.
C'est notre question.
Non, toujours le même. Vous faites un seul Rav. Celui que vous aimez bien. Celui que vous... Oh, tout à fait.
Des fois, il y a des syndicats qui arrivent de partout.
Ouais, non. Bon, après, c'est autre chose. Oui, vous allez voir Rabbi David Pinto parce que vous voulez avoir une bracha et tout, c'est autre chose. Mais dans le couple, dans des choses. Alors, effectivement, des rabbins comme ça, en général, ils ne vont pas venir à l'encontre. Ils ne vont pas dire... divorcer, ben, je sais pas quoi. Et on dit, ah ben, ne vous inquiétez pas, ça va se passer. Donc, ils vont toujours avoir des paroles de brachot. Donc, c'est sûr que ça va être bien. Mais si vous allez, parce que vous n'allez pas le voir tous les jours, vous avez problème de couple, vous avez problème avec les enfants, vous avez problème de cache-cou, je ne sais pas quoi. Vous avez, alors, Rabbi David, salut, comment ça va? Vous rappelez de moi? Bon, alors, j'ai un problème, j'étais à l'épicerie, et hier, excusez-moi, non, mais attendez, je vous raconte, j'ai vu une copie, et en fait, vous savez, c'est la copie, c'est la cousine de ma grand-mère qui est là. Par contre, vous allez votre rave, qui vous connaît, il connaît la cousine de la grand-mère du machin, il les connaît toute la famille. Donc là, il n'y a pas de problème. Et ça, ils vous connaissent depuis le début. Vous posez une question, ils savent qui j'ai affaire. Le Rav, il sait à qui j'ai affaire. Parce qu'il vous connaît depuis le jeune, enfin, depuis que vous avez commencé à parler avec lui. Donc, c'est comme un psy. Vous n'allez pas voir un psy comme ça, et après, vous allez voir un autre psy comme ça, n'importe où, il dit n'importe où. Ben oui, parce qu'il te connaît un instant.
C'est mieux.
Oui, non, évidemment. C'est un psy. Mais c'est un psy, et le psy, ça marche comme ça, il vous connaît depuis le début. D'accord? Moi, mon rave, il me connaît depuis que j'étais bachour. Et je ne vais pas dire maintenant, s'il me saoule, je vais répondre à un autre. Parce que maintenant, il faut que je lui dise toutes les étapes, quand j'étais jeune, quand j'étais etc. Je ne vais pas recommencer à dire toute ma vie. Il connaît, donc il sait, dès que je parle et je dis une question, voilà, je pense à un, il dit, regarde, pour moi, d'après ce que là, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Voilà. Il connaît. Donc, maintenant, pour revenir au niveau, et je finis ça encore une fois, je vais dire, je vais le finir. Pour les enfants, on est dépassé, oh là là. Pour les enfants, c'est la même chose. Les enfants, ils ne font qu'absorber. Tout ce qu'ils voient, c'est pour eux une éducation. Ne pas leur donner ça entre les mains, genre, zarma, ce que vous voulez comme mot, en yiddish. J'ai pas le temps. Voilà, ils s'amusent un peu. Le temps que moi, j'ai... Non, j'ai pas le temps. C'est pas le temps parce qu'ils vont comprendre. C'est comme éducation. Maman, elle a pas le temps. C'est portable. Quand ils vont grandir, maman, les parents, ils n'ont pas le temps, donne-moi une télé, donne-moi quelque chose que je puisse faire. C'est interdit. C'est vous le portable, c'est vous la télé, c'est vous tout, la pièce de théâtre, tout. C'est vous. C'est personne d'autre. Et ce que nous enseignent les Yévanim, les Grecs, c'est l'inverse. D'accord ? C'est exactement de voir, non pas sous le prisme de la Torah, mais voir sous le prisme du monde extérieur. Comment ils agissent ? Et nous, la Torah nous dit non, on ne voit pas comment ils agissent. Il y a des lois qui disent, attention, ce qu'on appelle Chokamedina, c'est-à-dire les lois du pays. Je ne peux pas faire ce que je veux. Si dans ce pays-là, je dois payer. Mais c'est des choses, c'est des lois qui ne vont pas à l'encontre de la Torah. Mais si les lois du pays vont à l'encontre de la Torah, je m'en fiche du pays. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Ce qui est à la différence des autres religions, que, comme les musulmans, etc., on fait notre loi, même si c'est rien contre le corps, mais nous, on veut appliquer comme il faut, etc., même si ça... Non. D'aller avec la kippa, hein, dehors, bon, si c'est vraiment un danger, tout ça, tu ne vas pas avec la kippa. Tu mets une casquette. Bon, on ne va pas dire un rabbin, moi, on m'a dit, enlève ta kippa, j'en ai, alors que je vais me raser, j'ai tout, j'en ai, je mets ton t-shirt, t'as écrit à CDC ou je ne sais pas quoi. C'est quoi ça? Je n'ai pas attendu parce qu'ils font rien qui part. Mais moi, au magasin, enfin, m'a dit, au magasin, je n'avais pas, je mets la casquette pour ne pas faire. Il me dit, tu es. Il a compris. Il dit, oui, je sais vous, Shabbat. Je dis, maman, tu l'as vu? Attends, la casquette, ça se voit, non? 25 km. Je dis, bon, d'accord. Je dis, alors, je vais aller avec le chapeau, à quoi ça sert la casquette? Bon, c'est pour moins faire de trucs. Mais ce que je veux dire, encore une fois, tant que ça ne vient pas à l'encontre de la Torah, évidemment qu'on le fait. Mais dès que ça vient à l'encontre de la Torah, je n'ai pas le droit. Parce qu'encore une fois, moi, je ne vois qu'à travers la Torah, qu'à travers le Chachamim, et mes enfants sont éduqués qu'à travers la Torah, qu'à travers les reines. Pourquoi ? Parce que la chance de réussir, la chance de survivre en Israël, ne vient qu'à travers la Torah, de ce qu'on est le Chachamim. Et rien d'autre. Et tout ce que moi, je peux penser en fonction de Pierre, Paul, du médecin, du grand philosophe, etc., c'est juste ma perte. Si ça vient à l'encontre de la Torah. Il faut bien se le dire. Et si j'ai une loi qui vient et qui dit, tu n'as pas le droit, je vous donne un exemple du beau-père de mon rave, qui était Rav Gershon Kahn, ceux qui connaissent, qui était un des rabbinim importants de Aix-les-Bains, qui était le bras droit de Rav Reich. L'histoire est connue, probablement. Il a voyagé en avion, il a reçu un plat de viande, etc., qu'on reçoit, il y avait un enjeu qui est à côté. Bon, il a ouvert le plat de viande, il a voulu faire un étiquetage d'aim. Il est parti, truc, il fait un étiquetage, il est revenu, il a mangé que le pain. Le gars, il le voit, il est comme ça. Mais pourquoi vous ne mangez pas votre plat? Non, je n'ai pas faim. Mais, d'accord, mais vous l'avez ouvert, c'est pourquoi? Je n'ai pas envie de manger. Non. Il n'a pas dit comme ça. Mais. Et alors, il dit, non, mais je veux savoir. Alors, à la fin, il a tellement insisté, il dit, regardez, on a une loi dans la Torah que le vin et la viande, on n'a pas le droit de le laisser sans surveillance. J'ai oublié. Je suis parti, j'ai laissé la viande sans surveillance. Alors, mais qu'est-ce que vous risquez? Ben, peut-être qu'on l'échange. Le type, il a regardé comme ça, il dit, c'est pas possible. Honnêtement, j'ai changé votre viande avec la mienne. Elle avait l'air mieux. Donc j'ai mis la boîte de viande sous le truc comme ça et j'ai mis elle, c'était du cochon, mais on ne voyait pas. Et la Torah est vraie. Pourtant ça va, le type, ça, il était, en plus c'était quelqu'un de bien, je veux dire, il y a des gens autour, qu'est-ce qu'il va faire comme ça? La Torah l'a dit, alors je sais pas, les Chacham, ils ont dit, ils ont enseigné, j'ai pas besoin maintenant de faire des trucs comme ça, des philosophies et tout ça. Si elle dit c'est interdit, bêtement, je suis. Peut-être qu'après je vais comprendre. Peut-être j'aurai la chance de comprendre et de voir la raison d'eux. Mais même si je ne la vois pas, alors voilà, c'est ça. Même si je ne la vois pas, le résultat, ça sera peut-être après. On a peut-être la chance. Mais pour les enfants, je ne prends pas de sécurité. Je ne prends pas de risque. Ce qui a été dit, c'est été dit. Et c'est pour ça qu'encore une fois, vis-à-vis des enfants, on doit ne regarder que sur le premier Torah. On le répète, les deux choses, la tefila et avoir un raf. Un raf pour l'éducation, un rare pour le couple, un rare pour chaque chose. C'est important. Nous, on a eu la chance, j'ai vécu presque 10 ans à Bnei Brak, donc je veux dire, j'ai été influencé sans arrêt d'attendre. Et j'ai mes rabbinim. C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a un problème je ne vais pas avoir un rabbin, mais il y a des rabbins qui sont très bien ici. Il faut choisir le rave qui a l'ashkafa de Torah, qui est vraiment la pensée, parce qu'il y a plein de rabbanim, il y a des rabbins et il y a des raves. Oui, non, un rave que vous pouvez côtoyer facilement. Oui, je ne sais pas quel rave, mais le rave de la synagogue. Et si lui, il n'arrive pas, s'il est honnête avec lui-même, il va, comme ça arrive, il va voir. Moi, des fois, on me pose des questions. Il y a des gens qui viennent sans même me poser des questions. C'est une très bonne question, je ne sais pas. Je vais demander. Donc, je fais moi l'intermédiaire même de ça. Après, quand il me répond, le rave à qui j'ai demandé, comme je connais la personne, donc je ne vais pas lui dire crûment ce qu'elle a dit. Ouais, il a dit, laisse tomber, c'est foutu, machin. Et alors, il faut réfléchir que, et machin, mais je vais dans cette direction-là. D'accord ? Donc, il faut voir les rabbinim qui sont vraiment dans le derrière, dans le chemin, etc. Pas des rabbinim folklore. D'accord ? C'est ça d'affaire. Alors, je vois, attends.